Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat consacré ce samedi à la liberté d'expression. Depuis l'assassinat de Samuel Paty, la question revient, lancinante, comment un cours sur la liberté d'expression a-t-il pu coûter la vie au professeur qui l'a donné ? Depuis 2015 et l'instauration de l'éducation morale et civique, d'abord imaginée par Vincent Peillon comme des leçons de morale laïque, puis instaurée par Najat Vallaud-Belkacem après les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher, ce même cours a été donné des milliers de fois à travers la France. Cette fois-ci, par la diffusion de vidéos mensongères et par la mobilisation de réseaux islamistes au projet politique revendiqué, la liberté d'expression semble s'être retournée contre celui qui l'enseignait. Il y aurait donc deux approches de ce droit fondamental, pilier de notre démocratie. La liberté d'expression, telle que sanctuarisée dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui sert de principe directeur à la loi sur la presse de 1881, et en miroir, la liberté d'expression qui s'exerce sur les réseaux sociaux sans aucune limite, parfois au nom de principes liberticides. La seconde est évidemment une menace sur la première, identifiée depuis longtemps. Nicole Belloubet, lorsqu'elle était garde des Sceaux, avait voulu ouvrir le débat sur une réforme de la loi de 1881. Plus récemment, la députée LREM Laetitia Avia a présenté une loi contre la haine en ligne, finalement retoquée par le Conseil constitutionnel au nom justement de la liberté d'expression. Dans un article du 20 octobre, Éric Dupond-Moretti annonçait dans Le Monde son intention de remettre une nouvelle fois l'ouvrage sur le métier. Alors, liberté d'expression, faut-il être tolérant à l'égard des intolérants. C'est une émission que vous pouvez écouter en direct ou podcaster plus tard sur l'application de Radio France.
France Culture, le temps du débat du samedi. Raphaël Bourgois.
La liberté d'expression est un droit, le droit d'exprimer librement ce que l'on pense. Ce droit est une liberté fondamentale, proclamée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. La liberté de communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Ce cadre-là, pour les injures haineuses, ce cadre-là est trop contraignant et donc n'y aurait-il pas une autre solution ? J'ai demandé un avis.
Où s'arrête la liberté d'expression ?
On est bien sûr dans un état de droit et justement nous défendons la liberté d'expression, donc on doit être très attentif à ce qu'on fait pour combattre certains excès. Pour ma part, par exemple, je pense que l'anonymat sur Internet est un fléau. Mais c'est mon point de vue, ça mérite d'être discuté, mais je pense qu'à l'occasion de la loi contre le séparatisme, ça doit rentrer dans le débat.
Il y a aussi la protection d'une liberté d'expression, notamment consacré, et j'allais presque dire ultra consacré par la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et on peut aussi envisager que l'on ait cette possibilité de s'exprimer anonymement, parce que l'anonymat, ça n'est pas forcément significatif de haine.
Voilà, vous avez entendu Nicole Belloubet, Jean-Michel Blanquer, puis Dupond-Moretti à la suite expliquer un petit peu leur conception de cette question de la liberté d'expression bien définie en début de Bob, comme on dit dans ce début de son. Haute Durée, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes magistrate, vice-procureure au tribunal judiciaire de Paris et vous êtes la responsable de la section presse et protection des libertés publiques, celle-là même qui est amenée à juger quand il y a des questions qui sont liées à la liberté d'expression. Avec vous en studio ce soir, Basile Ader, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat, donc en général, vous êtes face à Haute Durée dans un prétoire. Ce sera ce soir dans un studio. Vous êtes donc avocat spécialisé dans le droit de la presse et vous êtes l'ancien vice-bâtonnier du barreau de Paris. Et nous sommes au téléphone avec Charles Girard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, maître de conférence à Lyon 3 et vos travaux portent justement sur la liberté d'expression. Vous avez d'ailleurs un programme, qui est un programme de l'ANR, de l'Agence Nationale de Recherche, qui s'appelle Egalibex et qui traite justement de ces questions. Vous y êtes d'ailleurs co-dirigé en 2015, donc juste après les attentats, enfin au moment des attentats, un numéro de la revue Esprit sur punir la haine, je crois que c'était après les attentats de novembre. Une première question sur cette loi de 1881, et je m'adresse à vous, Haute Durée, puisque vous êtes amené au quotidien à la pratiquer, enfin vous aussi Basile Ader, mais à juger à partir de cette loi. Donc peut-être pourriez-vous d'abord nous rappeler un petit peu ce qu'elle dit et nous dire si, selon vous, aujourd'hui, c'est une loi qui est toujours praticable, en quelque sorte, dans le monde qui est le nôtre, ou si, selon vous, elle mériterait quelques petites modifications.
Alors, je crois d'abord important de rappeler que la loi de 1881, en son premier article, rappelle la valeur fondamentale qu'est la liberté d'expression, comme elle a été rappelée au début même de cette émission par la lecture de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sur le fait que la libre communication des opinions et des idées devait être protégée, mais qu'il fallait sanctionner des abus qui soient préalablement déterminés par la loi pour empêcher tout risque d'arbitraire et tout risque d'atteinte excessive à cette liberté première qu'est la liberté d'expression. La loi de 1881 rappelle cette valeur dès son premier article et par la suite, elle organise, elle encadre les conditions de cette liberté d'expression et nous dit quelles en sont les limites admissibles ou les abus qui mériteraient d'être sanctionnés. Et je dois dire qu'en matière de discours de haine, la loi de 1881 comporte déjà des textes d'incrimination qui visent à protéger des personnes cible de propos particulièrement dangereux, haineux, à raison de leur appartenance à une race, une ethnie, une religion ou à raison de leur orientation sexuelle. Ces dispositions existent déjà dans cette loi. Et en tant que chef de la section presse et liberté, j'ai pu noter, depuis 2015 notamment, puisque c'est une date phare sur laquelle travaille Monsieur Girard, depuis 2015, il y a déjà eu quelques retouches de cette loi pour assouplir le régime juridique de la liberté d'expression et des limites qui lui sont fixées et pour renforcer la lutte contre le discours de haine. Je peux vous donner plus de détails si vous le souhaitez.
On y reviendra au cours de l'émission, mais vous faites référence notamment à la loi 2017, égalité Exactement. Et citoyenneté, et qui a amené un certain nombre d'assouplissements, et notamment des assouplissements dans le sens de la prescription, Basile Adair, puisque en fait, l'une des questions qui se pose en ce moment, et c'est un des reproches qui est fait à cette loi de 1880, c'est une question de temporalité finalement. C'est à la fois la temporalité liée à la prescription, c'est-à-dire le temps qui s'écoule avant qu'un délit ne puisse plus être poursuivi, et aussi la temporalité qui est celle de la possibilité d'intervenir rapidement, parce que quand c'est sur les réseaux sociaux, c'est pas comme un délit de presse quand c'est publié dans la presse. Alors vous, votre regard sur l'utilité aujourd'hui de cette loi de 1881 ?
Je vais répondre à votre question précise sur la temporalité, parce qu'elle est effectivement fondamentale, mais à mon avis, elle dépend plus des moyens donnés à la justice pour statuer plus vite qu'elle ne le fait aujourd'hui. Et c'est certainement pas le problème de la loi qui, au contraire, dans un de ses articles, avait prévu, mais c'est le seul que la Cour de cassation a estimé, n'étant pas d'ordre public, que les tribunaux devaient statuer dans les 30 jours de leur saisine. C'est dire si le procès Zola a dû s'organiser à la va-vite devant la Cour d'assises, parce qu'à ce moment-là, on respectait les 30 jours. La loi de 1881 est un des fondements de notre République. Elle est quasiment née avec la Troisième République, avec l'installation pérenne de la démocratie chez nous. Et ce serait un grand tort d'y toucher. Non pas de la modifier, et Madame Audurey a raison de rappeler que régulièrement, vous savez, c'est un peu comme la Tour Eiffel, il y a plus grand beaucoup de boulons d'origine, mais ça reste la Tour Eiffel. C'est toute une philosophie, c'est une loi qui est passée sous le crible de la Cour européenne des droits de l'homme, comme le rappelaient nos ministres à l'instant, qui a passé sous le crible du Conseil constitutionnel. C'est une loi moderne, enrichie par beaucoup de jurisprudence, c'est beaucoup de droits coutumiers. Et c'est une loi qui amène les juges à d'abord se spécialiser, parce qu'elle comporte des règles spéciales, notamment tout un caractère accusatoire de la procédure, et à toucher cette loi avec, dans les cas qui leur sont soumis, avec une infinie précaution. Donc, ce que nous ne souhaitons pas, nous les praticiens, mais il y a une quasi-unanimité des gens qui la connaissent, à vous dire, il faut rester dans ce cadre juridique, qui a fait ses preuves, qui est un fondement de notre République. Il est déplorable, je termine par ça, puis après je répondrai plus précisément à vos questions, que à chaque fois qu'un nouveau ministre, un nouveau gouvernement arrive, il se dit « Ah, cette loi est décidément trop ancienne, elle n'est plus adaptée aux réseaux sociaux », alors que ça fait 20 ans que la loi de 80 s'applique tout à fait correctement à Internet. On pourra discuter ensuite de la question de la responsabilisation des plateformes, parce que c'est ça la vraie question, et non pas la question de la loi. J'ai terminé, je voudrais juste, à titre d'introduction, vous dire un peu quelle est la philosophie des gens qui connaissent la loi, que de se dire « Il faut forcément la réformer ». C'est comme si un ministre de l'Intérieur disant « Écoutez, la loi de 1905 sur la laïcité, elle est trop vieille, il faut la réformer ». C'est aussi bête que ça.
Mais c'est des phrases qu'on a pourtant entendues déjà autant sur la loi de 1905 que celle de 1881. Un mot, Charles Girard, puisque Basile Ader vient de le dire, la loi de 1881, elle est presque concomitante de la naissance de la Troisième République, en tout cas de la République dans laquelle la notion de République telle qu'on la vit aujourd'hui, même si elle a évidemment évolué depuis la fin du 19e siècle. On pourrait même dire que cette question de la liberté d'expression, elle est au fondement de la démocratie. C'est la possibilité de délibérer entre égaux, pour reprendre un titre d'un livre que vous avez signé, je crois, chez Vrin, c'était récemment, Charles Girard. Cette question de la liberté d'expression, c'est un fondement démocratique.
Oui, bien sûr, c'est notamment un fondement démocratique. Et c'est vrai dans la conception républicaine française, mais c'est vrai aussi ailleurs, dans d'autres démocraties libérales, donc dans d'autres régimes qui accordent une protection constitutionnelle forte à la liberté d'expression, mais aussi de conscience, d'association, aux libertés politiques, et ainsi de suite. Et la formulation de ce droit, sa formulation précise varie évidemment d'un cadre national ou juridique à un autre. La libre communication des pensées et des opinions de la Déclaration française, ça n'est pas la même chose que le free speech états-unien, qui n'est pas exactement la même chose que la liberté d'expression de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ou de la définition un peu différente de celle de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc il y a plein de formulations juridiques diverses et des différences qui ont des implications. Mais toutes ces instanciations juridiques renvoient quand même à un même principe politique, à un principe politique dont la part commune, si j'ose dire, est assez claire. C'est l'idée que la communication publique des opinions et des informations doit être libre, qu'elle doit être protégée contre l'action des puissances de censure, et en particulier, mais pas forcément seulement, contre la censure étatique. Et donc dans tous les régimes juridiques où elle est protégée, où elle a ce statut, dans toutes les démocraties libérales où elle tient cette place, c'est une liberté qui est affirmée comme fondamentale, comme éminente, qui a un degré de protection qui est particulièrement fort, même si ça varie beaucoup évidemment d'un lieu à un autre, et qui en même temps est limitée. Ce n'est pas une liberté illimitée. Et il n'y a pas vraiment de paradoxe ou de contradiction, ou alors seulement superficielle, dans le fait de dire que cette liberté est très importante, mais de dire qu'elle ne couvre pas n'importe quel type d'action qu'on peut faire à travers l'expression. Si vous ne faites pas que communiquer des opinions ou des informations, mais si en vous exprimant, vous vous rendez coupable d'injures publiques, de diffamation, d'incitation à la haine, d'apologie du terrorisme, d'atteinte à la vie privée, vous réalisez des actes qui sont punissables sans que cela contredise réellement, à vrai dire, le principe de la liberté d'expression. Parce que la communication des opinions et des informations, et donc ça veut dire liberté de diffuser, mais aussi liberté de recevoir, n'englobe pas tous ces actes qui créent des préjudices et qui sont punissables. Donc bien sûr, ces catégories qui sont sujettes à répression varient là aussi d'un cadre à l'autre. Par exemple, l'incitation à la haine est réprimée en France et en Europe, elle ne l'est pas aux États-Unis. Mais partout, il y a des limites de ce genre, même si elles ne sont pas exactement les mêmes.
Alors
ce qui est souvent perçu comme une sorte de paradoxe...
On aura évidemment l'occasion de revenir sur cette définition de la haine, et aussi sur cette approche que vous avez soulignée, Charles Girard, la question du paradoxe. Mais je voulais faire réagir quand même un instant, Auduret, à ce que vous venez de dire, et aussi en vous posant la question, Auduret, mais alors... qu'est-ce qui aurait changé? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas cette semaine, dans Le Monde, Catherine Chanrenaud, qui est la procureure générale auprès de la Cour d'appel de Paris, puisse déclarer dans Le Monde « Nos moyens de poursuite sont entravés par la loi de 1881 ». Qu'est-ce qui entrave ces moyens de poursuite dans cette loi par rapport à une situation qui, manifestement, a changé, même si on voit bien que, comme vous le disait Basile Ader, voilà, le cadre est là, mais peut-être qu'il faut changer quelques boulons de la Tour Eiffel, pour reprendre son expression.
Je pense que la difficulté qui a été mise en avant, c'est cette question de temporalité que vous évoquiez tout à l'heure avec Maître Basile Ader. Et je rejoins l'idée exprimée par Maître Ader qu'en réalité, la difficulté est plus la régulation des informations qui peuvent circuler sur Internet en temps réel, avec un risque de viralité et de propagation à grande échelle, et un risque de dommages démultipliés. Dans la prise de parole que vous évoquez par Madame la procureure générale de la Cour d'appel de Paris, il était fait référence à une situation où le mis en cause avait commis un délit de droit commun par la position d'inscription sur les monuments publics de la ville de Paris qui présentait un caractère antisémite.
C'était les croix gammées qui avaient été peintes sur
les arcs de la rue de Rivoli, d'autres statues et d'autres bâtiments publics. Et en réalité, c'est vrai que cette inscription présentait un caractère antisémite sans aucune place pour le débat. Mais les qualifications qui pouvaient être retenues sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, et notamment la qualification d'injure publique à caractère antisémite, ne pouvait donner lieu à un déferlement et à un jugement rapide de son auteur, compte tenu de cette particularité procédurale que présente la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Ce que je pense important de relever, c'est que le législateur, le 29 juillet 1881, a tenté, dans le respect de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et aujourd'hui encore dans le respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, d'établir un juste équilibre entre la préservation de cette valeur fondamentale qu'est la liberté d'expression et la nécessité d'en sanctionner les abus. Et dans ce texte, une différence est faite entre les délits de presse que l'on peut rencontrer très couramment, que sont les injures ou les diffamations pour lesquelles la 17e Chambre travaille chaque jour de la semaine, et puis ces autres délits de presse qui ont la particularité d'être aggravés par un mobile raciste, antisémite, homophobe ou sexiste. Et dans cette hypothèse-là, il y a un assouplissement des règles, mais il est vrai qu'il n'y a pas cette possibilité de déferlement comme le permettrait n'importe quelle disposition du Code pénal pour des infractions classiques, parce qu'il y a ce souci de préserver le jugement des paroles ou des propos qui sont prononcés en public afin de savoir si ces derniers contreviennent à la loi applicable, et c'est toujours, toujours dans le cadre d'un débat à distance et d'un débat apaisé.
Alors on reviendra évidemment sur les questions que vous soulevez haute durée, mais j'aimerais vous faire écouter Thierry Pêche, qui était l'invité de l'Esprit public dimanche dernier sur France Culture, et qui justement nous invitait malgré tout à nous interroger dans le cadre des réseaux sociaux à l'utilisation que nous faisions de notre liberté d'expression.
Il faut aussi quand même réfléchir à l'usage que nous faisons tous de la liberté d'expression. Moi j'ai été sensible aux condamnations qui venaient du monde musulman sur cet assassinat, au communiqué du CFCM, et notamment aussi à la déclaration de Tarek Obrou, l'imam de la mosquée de Bordeaux, qui a bien sûr condamné, mais qui a ajouté ce qu'il faut ajouter, ce qui est l'essentiel. Il a dit « Nous jouissons d'une liberté magnifique dans ce pays, et moi je ne voudrais pas en être privé. Je ne voudrais pas être privé de la liberté d'exprimer mes idées. » Malheureusement, l'usage qui est fait de cette liberté d'expression n'est pas toujours aussi noble. Et d'une certaine façon, l'usage qui en a été fait pour harceler Samuel Paty sur les réseaux sociaux est évidemment extrêmement toxique. Je ne sais pas si ça peut être qualifié pénalement, on verra bien. Mais peu importe, c'est un usage toxique. Mais je vous rappelle que le titre de l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions », on a toujours, constamment, de façon continue, défendu la liberté d'expression. Néanmoins, on l'a aussi encadré. 1881, loi sur la liberté de la presse, on la limite, cette liberté d'expression, à la diffamation et à un certain nombre de comportements inappropriés ou en tout cas contraires à l'ordre public. Il serait temps que règne sur les réseaux sociaux la même exigence que celle qu'a fait régner la Troisième République dans le domaine de la presse, qui pourtant est libre et qui doit le rester.
Voilà, Thierry Pêche au micro d'Émilie Aubry, dimanche dernier dans l'Esprit public. Vous vouliez réagir, Basile Adair.
Oui, c'est toujours le même problème. Si vous voulez, je voudrais rappeler la phrase de Churchill, la liberté est le pire des systèmes, mais il n'y en a pas de meilleur. Donc forcément, il y a des abus. Et c'est bien ce que prévoit le texte de 1789. Mais 1789, et vous l'avez rappelé tout à l'heure en introduction, dit que c'est un des droits les plus précieux de l'homme. En fait, c'est le seul pour lequel ils disent c'est un des droits les plus précieux de l'homme. Il faut quand même le rappeler. Ça veut dire que c'est ce droit-là qui préserve les autres. C'est parce que on va donner ce droit à des journalistes, à des avocats, de dénoncer toutes les atteintes qui seraient faites aux autres libertés publiques et individuelles. Bien sûr que les réseaux sociaux ont changé la donne. Ces règles ont été imaginées pour des médias traditionnels, pour des personnalités publiques qui avaient vocation à s'exprimer publiquement et pas à tout un chacun. Donc cette liberté d'intervenir dans la sphère publique, elle est donnée aujourd'hui à tout le monde. Pour autant, est-ce que parce que ça devient tout le monde, on va rabaisser le niveau général de liberté? Je pense pas que ça soit ça la solution. La vraie solution, c'est de responsabiliser les intermédiaires, les plateformes. Et quand en 1881, on pose la cascade de responsabilité pour qu'il y ait toujours un responsable, c'est soit l'éditeur, avec son directeur de publication. S'il est anonyme, c'est l'imprimeur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on doit mettre le nom et le numéro d'imprimeur sur tout écrit publié. Et si l'imprimeur veut rester anonyme, c'est le colporteur. Donc, on avait imaginé un système où il y ait forcément une responsabilité, parce que cette liberté suppose la responsabilité. Aujourd'hui, avec ces grandes plateformes qui centralisent tout, que ce soit les moteurs de recherche ou celles des réseaux sociaux, ce sont eux les colporteurs. Ce sont eux les imprimeurs. Et donc, il n'y a aucune raison qu'on bute sur cet écueil, parce qu'il s'agit de sociétés américaines protégées effectivement par le premier amendement que vous rappeliez aussi. Et donc, ce qu'a commencé de faire Madame Avia, en allant trop loin, c'est normal qu'elle ait été censurée, que sa loi par le Conseil constitutionnel, mais c'est ça la voie. Il faut mettre des mécanismes de responsabilisation des plateformes qui visent notamment à lutter contre l'anonymat parce que c'est trop commode et c'est ça qui crée une forme d'impunité.
Alors Charles Girard, est-ce que vous êtes d'accord, la liberté d'expression comme première des libertés qui, vous l'avez rappelé tout à l'heure, suppose de toute façon un cadre, mais qui apparaît aujourd'hui, ou en tout cas des interdits, des limites, comme toute liberté d'ailleurs, mais qui aujourd'hui apparaissent largement insuffisants dans le cadre notamment de l'explosion des réseaux sociaux?
Oui, je suis pas non plus convaincu que ce soit réellement insuffisant. Il y a aucun doute sur le fait que il y a des nouvelles possibilités techniques et des nouvelles modalités d'accès à la parole publique sur dans les médias numériques de façon générale qui soulèvent des nouveaux problèmes de régulation. Donc qu'est-ce qu'on fait de l'anonymat? Comment est-ce qu'on rend possible une expression qui ne soit pas toujours exposée à la sanction du fait de l'identification de la personne, mais sans laisser pour autant des comportements délictueux ou criminels échapper à la justice parce qu'on n'arrive pas d'une manière ou d'une autre, par identification directe ou en passant par les opérateurs de plateforme, à atteindre l'identité de la personne réelle qui a posté le message. Donc il y a des problèmes de ce type. Il y a un problème sur la question de savoir, évidemment, et c'est un problème majeur, dans quelle mesure il est évitable ou raisonnable pour l'État de déléguer d'une manière ou d'une autre à des acteurs privés comme les GAFAM et les opérateurs de plateforme le travail d'évaluation, de censure, en leur demandant par exemple de retirer dans des délais très brefs des propos pour lesquels ils auraient été saisis par des usagers, quand on sait que le juge, lui, quand il le fait, prend précisément, comme ça a été dit par Aude Duret, le temps de porter un jugement d'interprétation du sens de ce qui a été exprimé, à distance de l'émotion immédiate, en mettant des techniques assez compliquées d'interprétation, puisque la caractérisation ou la qualification juridique d'un acte d'expression, c'est très compliqué, plus que la plupart des autres types d'actes, parce que ça suppose de pouvoir interpréter la signification de ce qui a été exprimé. Ça dépend souvent aussi de standards un peu abstraits, de qu'est-ce qui est jugé ou pas dans tel ou tel contexte social outrageant, ou qu'est-ce qui est plutôt normal comme mode d'expression, qu'est-ce qui est jugé incité à la violence, ou être simplement provocateur. Donc il y a toute une technique assez élaborée d'interprétation de la signification du contenu des actes d'expression qui rend les solutions immédiates de condamnation, de répression ou de suppression des contenus peu adaptées et potentiellement dangereuses en réalité.
Est-ce qu'il faut rappeler Aude Duret que ce que proposait la loi Avia, est-ce qu'on entend revenir encore dans les débats, c'est en quelque sorte de sortir du processus judiciaire, de la discussion, du débat public pour avoir recours à une démarche administrative qui permettrait de retirer dans les 24 heures telle ou telle publication. Alors, mettons un petit peu avec vous les mains dans le cambouis, soyons un peu concrets, parce que comme vient de le dire Charles Girard, ça demande un certain nombre de techniques. C'est vrai que la question est celle de l'intention, celle du contexte, celle de la destination aussi, à qui sont destinés. C'est souvent ce qui a été un problématique avec les caricatures, par exemple, les caricatures de Charlie Hebdo, qui sont des caricatures publiées dans un journal satirique très précis, mais qui se retrouvent dans d'autres contextes, décontextualisés, et à destination de gens qui n'auraient pas lu Charlie Hebdo en temps normal. Comment vous, au quotidien, au duré, vous arbitrez? Est-ce qu'il y a une plus large part d'interprétation, on va dire, dans votre travail de magistrate sur ces questions-là, que ça ne pourrait l'être dans d'autres cas, si vous étiez amené à travailler ailleurs?
Tout à fait. Je trouve que les infractions en matière de discours de haine, telles qu'elles sont punies par la loi de 1881, donnent lieu à un travail d'interprétation qui relève presque de la casuistique. Nous sommes obligés de nous intéresser, certes, si je prends l'exemple des caricatures de Mahomet, au moment où elles ont été diffusées, tiennent compte non seulement de la caricature en elle-même, mais du contexte dans lequel elle s'inscrit. Par ailleurs, on doit apprécier ce type de publication de manière objective et non pas subjective, ce qui rappelle que les limites de la liberté d'expression, elles ne sont pas fixées par la susceptibilité ou l'offense que vont révéler quelques-uns à travers des dépôts de plainte, mais qu'elles doivent s'apprécier de manière claire, nette et dans le respect de la loi et de la jurisprudence applicable. Et puis, il y a aussi les éléments constitutifs qui sont posés par l'infraction et définis par la loi en matière d'injures aggravées. Et puis, c'est l'élément essentiel, le genre de l'écrit ou le cadre général dans lequel telle ou telle caricature, en l'occurrence, ça peut être publié. Et je crois que la justice a été assez claire. Elle a rappelé ce principe fondamental qu'est la liberté d'expression. Elle a évoqué la réalité de ces caricatures en rappelant que la publication de Charlie Hebdo n'avait d'autre vocation que de préserver cette liberté d'expression à raison des manifestations qui avaient eu lieu à la suite de la diffusion des caricatures danoises et pour protéger le métier de journaliste et de caricaturiste en général. Elle a rappelé également qu'indépendamment du dessin incriminé, je pense au dessin de Cabu, où vous voyez ce prophète pleurer en disant
«
c'est dur d'être aimé par des cons », la justice a rappelé que le titre de Charlie Hebdo, au-dessus de la caricature litigieuse, comportait « Mahomet dépassé ou débordé par les intégristes », et revenu finalement sur les éléments constitutifs de l'infraction fixée par la loi de 1881, pour dire que cette caricature, plutôt que de viser l'ensemble de la communauté musulmane, ne visait qu'une catégorie des membres de cette communauté qui se caractérise par leur islamisme politique ou radical. Et enfin, je terminerai par ça, le terme « con » peut être considéré comme naturellement injurieux ou irrévérencieux, mais c'est là l'intérêt de rappeler quel est le genre de l'écrit, le support qui a permis la publication de ces caricatures, pour en arriver à une décision de relax, parce que là, la sanction de telle caricature était une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression. Et je dirais juste une chose, c'est que oui, il est vrai que certains se revendiquent de la liberté d'expression pour mieux la piétiner. Et indépendamment de tout critère d'appréciation juridique, je crois que la vraie limite et la véritable alarme, c'est lorsqu'on voit que ceux qui prétendent pouvoir en bénéficier l'utilisent pour faire taire les camps adverses et pour faire taire ceux qu'ils désigneront comme leur ennemi.
Basile Adair.
Ce procès des caricatures dont tout le monde, quoi, quasiment tout le monde est d'accord pour dire qu'il fut exemplaire, que c'est un procès comme on voudrait que tout se déroule, n'aurait pas été possible si on avait extrait, comme beaucoup le souhaitent, les incriminations racistes de la loi de 81, car on serait alors arrivé dans un procès de droit commun auquel on aurait consacré à peine plus d'une heure, et jamais on aurait eu tous ces chevaux de considérations qui doivent être retenus, que rappelait à l'instant Madame Audurey, pour savoir quel était le genre de l'expression, quelle était la signification, que le mot intégriste au-dessus désignait nécessairement les cons dans un dessin qui est naturellement outrancier. Tout ça, il n'y a que au terme d'une procédure particulière que pose la loi sur la presse et devant des juges qui sont habitués à en connaître, qu'on a pu statuer comme on a statué.
France Culture, le temps du débat du samedi. Raphaël Bourgois.
Free Speech, c'est le titre du dernier album, d'un album récent plutôt, de Chlorine Free. On discute de liberté d'expression ce soir dans le temps du débat du samedi avec nos trois invités. Audurey, qui est magistrat vice-procureur au tribunal judiciaire de Paris et responsable de la section presse et protection des libertés publiques. L'avocat Basile Adair, qui est spécialisé dans le droit de la presse et qui est l'ancien vice-bâtonnier du barreau de Paris. Et nous sommes au téléphone avec le philosophe Charles Girard, qui est maître de conférence à Lyon 3 et dont les travaux portent lui aussi sur la liberté d'expression. Et donc je me tourne vers vous virtuellement, parce que je le rappelle, vous n'êtes pas avec nous, Charles Girard, pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit juste avant la pause et s'interroger avec vous finalement sur, je vous ai coupé un peu tout à l'heure sur ce paradoxe qui n'est qu'apparent dans la liberté d'expression. Donc je vous repose un petit peu la question pour que vous puissiez développer. Pourquoi, selon vous, il n'est pas paradoxal de défendre la liberté d'expression d'un côté et de se dire que malgré tout, la liberté d'expression peut être utilisée contre les libertés?
Ce n'est pas paradoxal parce que elle fait partie de ces nombreux droits dont on peut abuser. Et il faut bien comprendre ce qu'on entend par là. C'est pas qu'on en fait un usage excessif. C'est que sous couvert de liberté d'expression, on fait autre chose. Pour le dire encore autrement, ce qui relève de l'apologie du terrorisme ou ce qui relève de l'incitation à la haine raciste, ça ne relève pas de la liberté d'expression. C'est autre chose que l'exercice du droit à la liberté d'expression. Tout simplement parce que ce qui est protégé par le droit à la liberté d'expression, c'est pas tout ce qui, au sens de la langue courante, correspond à de l'expression. Il y a mille et une choses, délictueuses ou pas, criminelles ou pas, qui ne relèvent pas de la liberté d'expression, qui ne relèvent pas de la participation à la communication publique, des opinions et des informations. C'est un point important parce que le discours public qu'on a entendu ces derniers jours et qui était, dont on trouvait des échos dans l'un des messages que vous avez diffusés tout à l'heure, laisse entendre que, en fait, c'est une sorte de vaste zone grise au sein duquel on peut faire un peu ce qu'on veut et que, du coup, il y a des abus qui auraient pu être évités ou qui seraient mieux réprimés si le droit était plus strict. Mais dans l'affaire tragique qui a suscité sans doute le thème de cette émission, dans le cas de la campagne de diffamation, de harcèlement qui a exposé ce professeur d'histoire-géographie, Samuel Paty, à l'action d'un terroriste, il y a toute une série d'actions dont il est évident qu'on peut les évaluer à l'aune de délits ou de crimes qui sont reconnus par le droit français. Diffuser publiquement des informations fausses à propos d'un enseignant en prétendant qu'il s'est comporté d'une façon jugée discriminatoire, humiliante, quand ce n'est pas le cas, révéler son nom, donner l'adresse du collège où il se trouve, inviter activement les gens en nombre à se manifester auprès de lui, auprès de sa hiérarchie, auprès de l'école, auprès du rectorat, tout ça, ça ne relève pas de l'usage usuel de ce qu'on appelle la liberté d'expression, mais de ses formes abusives. Donc on peut pas, je ne suis pas juriste bien sûr, puis on ne peut pas préjuger de ce que sera l'action en justice plus tard, mais ça relève d'une mauvaise compréhension à la fois du détail du droit de la loi de 1881 qui a été rappelé tout à l'heure, mais aussi de la compréhension du concept de liberté d'expression, que de croire que ces comportements ont été rendus possibles parce qu'il y a la liberté d'expression. Si je veux juste ajouter une autre idée rapide, je me méfie un peu, pour rebondir sur ce qui a été dit plus tôt, encore dans un message que vous avez diffusé, de l'idée que bon, ben, pour le droit c'est pas clair, c'est surtout un appel à la responsabilité morale des individus qu'il faut formuler. Bien sûr, chacun ne peut que porter un jugement moral sur les comportements des uns et des autres, surtout dans une affaire qui conduit à des conséquences aussi atroces. Mais précisément, il y a une différence entre le droit et la morale. Et le principe de la liberté d'expression, c'est qu'est protégée l'expression et la réception d'opinions que chacun peut trouver désagréables, dangereuses, malvenues, choquantes, perturbantes, obscènes, dans les limites définies par la loi. Mais le ressenti ou le jugement moral porté par les uns et les autres n'est pas le fondement de la répression. Tout simplement parce que nous ne sommes pas d'accord sur ce qui est utile ou pas, dangereux en termes d'idées générales ou pas, choquant ou pas, perturbant ou pas. Et donc le jugement moral à sa place. Demander à chacun de faire preuve de retenue quand il s'exprime, à mon avis, procède d'une mauvaise compréhension de ce qu'est ce droit. Ce droit nous permet de nous exprimer alors que nous n'avons pas exactement la même compréhension de ce qui est dissible ou pas dans l'espace public. Donc le droit fixe des limites fermes là où il y a préjudice pour autrui, et pour le reste, chacun défend les opinions dans lesquels il croit, de la manière qui lui paraît pertinente pour les défendre.
Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire à l'instant, parce que c'est affirmé par la Cour européenne, qui a dit depuis son premier arrêt de 1976, Andy Sag contre Royaume-Uni, que la liberté d'expression vaut non seulement pour les idées et informations accueillies favorablement, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent une partie de la population. Qu'il n'y a pas de progrès, de civilisation et d'épanouissement d'une démocratie sans qu'on prenne en compte cela.
Alors, Aude Duret, je ne demanderai pas de vous exprimer sur ce qui se serait passé si les vidéos avaient été, les vidéos qui ont été celles du père de cette jeune collégienne, ou les vidéos de cet islamiste notoire aussi qui ont relayé ce que vient d'expliquer Charles Girard sur les locations, les propos inventés de Samuel Paty en classe, qui aurait pu se passer. Mais est-ce que vous êtes d'accord à ce qui vient d'être dit? C'est-à-dire que là, si la justice s'était penchée dessus tout de suite, il y a les moyens aujourd'hui, en l'état du droit, pour retirer ces vidéos, pour poursuivre les auteurs?
Je crois que vous avez évoqué en introduction de cette émission, notamment à travers la présentation de la proposition de loi Avia, le mode de régulation administrative et ensuite le traitement judiciaire qui peut être fait par des abus de cette liberté d'expression. Et il faut bien distinguer ces deux temps de l'intervention des autorités publiques. Les retraits de contenus qui seraient illégaux et qui interviendraient de façon administrative ne sont pas organisés par la même loi que la loi sur la liberté d'expression de 1881. Et je crois qu'en fait, C'est vrai que la vraie difficulté est plutôt posée par le développement d'Internet et des réseaux sociaux et la rapidité avec laquelle les informations circulent. Charles Girard vous l'a dit, les infractions existaient avant et elles ne sont pas uniquement prévues et réprimées par la loi de 1881. Circulent sur les réseaux sociaux des délits de droit commun qui sont fixés par notre code pénal, tels que les menaces, l'apologie de terrorisme a rejoint le code pénal, la provocation au terrorisme également. Et on est bien au-delà de la problématique de la liberté d'expression. C'est un système de responsabilisation des utilisateurs d'Internet, mais également des opérateurs Internet, qu'il faut essayer d'imaginer dans le respect de nos valeurs fondamentales. Mais ça n'est pas la défaillance de la loi de 1881.
Donc si je comprends bien, la question elle est plus d'un côté de donner peut-être plus de moyens d'une façon ou d'une autre pour identifier rapidement ce qui se passe sur Internet et pouvoir utiliser les outils du droit tels qu'ils existent aujourd'hui plutôt que de changer la loi de 1881, mais aussi d'avoir cette action politique vis-à-vis des éditeurs aujourd'hui, puisque la loi sur la presse elle est pensée pour des éditeurs de presse, les éditeurs ont changé maintenant, leur siège social est en Irlande ou en Californie.
En tout cas, on vous parlait effectivement du principe de responsabilité en cascade prévu pour la presse écrite en 1881, c'est vrai que sur Internet, cette responsabilité en cascade n'existe pas vraiment, puisque les propos qui sont mis en ligne en temps réel ne peuvent engager la responsabilité que de leur auteur, et pas celle d'une éventuelle personne morale que serait tel opérateur Internet, ni celle d'un éventuel représentant désigné pour une plateforme qu'on ne peut pas identifier compte tenu de l'anonymat dont ils jouissent parfois. Donc il faut bien trouver un autre système parce que bon nombre de fois, l'auteur d'un commentaire mis en ligne susceptible d'être sanctionné par la loi de 1881 ne peut pas être identifié faute de réponse à nos réquisitions.
Il faut que vous sachiez qu'à la CNIL, il y a 200 agents et ils sont là, et heureusement qu'ils sont là pour veiller à nos données
donc
personnelles.
Donc information et liberté, voilà, sur les données
personnelles. À la section de Madame Duret, sauf erreur, voilà. Et c'est un parquet national de fait, puisque tout ce qui est sur Internet arrive dans la juridiction parisienne. S'il y a des affaires locales qui sont prises, ça arrive évidemment, mais l'essentiel est traité à Paris. Non, mais c'est pour vous dire.
Donc six, hein, parce que vous étiez loin au Duret, donc vous êtes six dans votre
voilà,
section.
Donc, voilà, donc ce n'est qu'une question de moyens donnés à la justice en la circonstance. Et les moyens juridiques qu'offre la loi, que ce soit le code pénal pour tous les délits de droit commun qui ne procèdent pas de la liberté d'expression, même si c'est quelque chose en est le support, et ce qu'offre la loi de 81 avec les aménagements récents qu'on y a apportés, si on avait suffisamment de personnes pour poursuivre, suffisamment de juges pour juger, et l'utilisation du référé, parce que lorsqu'il y a urgence, on devrait permettre au parquet de citer à court délai, certes, pas dans la comparution immédiate, mais à court délai pour très vite faire effacer, juger les responsables. Et s'agissant des parties, ils ont toujours la possibilité de saisir le juge des référés, même au terme d'une procédure de référé d'erreur. Référé qu'on a créé pour les fake news en matière électorale. Donc il n'y a aucune raison qu'on ne l'étende pas à d'autres mesures. Donc si vous voulez, on a les moyens qui sont à notre disposition. Il faudrait les moyens humains et les crédits de la justice, mais souvent on en revient à ça. Et c'est quand même la mal-aimée de la République.
Sur les référés, c'est vrai qu'on a mis en place...
Rappelez-nous ce que c'est la procédure de référé.
La procédure de référé est une procédure d'urgence que l'on soumet à un juge civil lorsqu'il y a un trouble manifestement illicite qui résulte du contentieux qu'on lui soumet et qu'on veut obtenir les moyens d'y répondre de façon rapide et simple. Et lorsqu'il y a un discours de haine qui persiste sur Internet sans qu'on puisse en identifier les responsables. Il a été imaginé récemment, ça date de fin 2018 et on continue d'avoir recours à cette réponse-là, il a été imaginé de saisir la justice civile en la forme des référés pour ordonner aux fournisseurs d'accès à Internet le blocage du site qui permet la parution de ces propos haineux sanctionnés par la loi de 1881.
Alors, puisqu'on parle, Charles Girard, de propos haineux depuis tout à l'heure, autant on peut avoir le sentiment que identifier un propos raciste, un propos homophobe, un propos sexiste ouvertement, c'est plus ou moins facile. En tout cas, ça tombe un peu sous le sens. Le sens commun permet assez vite de se mettre d'accord, à mon sens. Pas toujours, j'imagine bien. Et c'est pour ça qu'il y a des débats contradictoires. Mais voilà, ça s'identifie identifie quand même relativement bien, mais quand c'est des incitations, enfin là, je repense encore à ces vidéos, le professeur traité de voyou, il n'y avait pas nécessairement, alors peut-être qu'un tribunal aurait trouvé à dire que c'était des propos haineux, mais ça apparaissait pas forcément comme des propos haineux avant qu'évidemment l'acte qui a été commis. Donc je m'interrogeais et je voulais vous poser la question en tant que philosophe, hein, vous savez qu'on invite les philosophes pour faire un travail de définition, toujours Charles Girard, sur cette définition justement de la haine ou du propos haineux, est-ce que ça vous paraît évident ou est-ce que justement il faut un contexte, notamment un contexte de débat, de discussion pour parvenir véritablement à le définir?
C'est souvent pas évident. En l'occurrence, il n'y avait pas de propos haineux du tout dans le. Alors, propos haineux, déjà, c'est une notion un peu de la doctrine. C'est pas un concept de droit en droit français. Il y a en droit français une forme d'injure publique, de diffamation ou d'incitation à la haine, à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance. Mais faut comprendre, supposer, hein, dans l'esprit de la personne qui parle, à une religion, une ethnie, une race ou une religion déterminée. Mais là encore, il faut comprendre dans la tête de la personne qui parle. C'est-à-dire, en gros, ce qu'on peut englober parfois sous l'appellation discours de haine ou propos haineux, c'est des propos qui visent des individus en les saisissant par une seule caractéristique, donc en les essentialisant, en les ramenant à une caractéristique d'ordre ethnique, racial, religieux ou national, et qui, les ayant saisis comme ça, soit les injurie, soit les diffame, soit incite à la violence ou à la discrimination ou à la haine à leur égard. Donc c'est quelque chose de très précis, c'est pas tous les propos, il y avait pas ça, il y avait beaucoup de choses certainement condamnables, mais il y avait pas ça dans les propos ni du prédicateur ni du parent d'élève qui ont organisé cette campagne de harcèlement. Et c'est quelque chose de très précis en droit français, mais c'est mal connu. Donc par exemple, il y a conceptuellement, contrairement à ce qu'on entend parfois, la frontière entre l'idée de blasphème et l'idée d'incitation à la haine, elle est très nette. Ce sont deux choses qui n'ont à peu près rien à voir. Le blasphème, qui n'est pas reconnu par le droit, évidemment, puisque le droit est laïque en France.
C'est justement la loi de 1881 qui a fait sortir le blasphème du droit français.
Dans une république laïque, il n'y a pas de délit de blasphème, il n'y a pas non plus au sens strict de droit de blasphème, au sens où le blasphème, ça n'existe pas pour le droit laïque. Parce que le blasphème, c'est une insulte à la divinité ou au dogme religieux, donc c'est forcément défini du point de vue des croyants, ou plutôt généralement du point de vue d'une certaine interprétation de la religion en question. Les prétendus blasphèmes, ce qui est du point de vue d'une religion un blasphème, est protégé. Mais le droit d'un État laïque ne note pas que ce soit objectivement comme étant un blasphème.
La liaison est mauvaise, je suis désolé, on reviendra vers vous Charles Girard, mais juste un mot là-dessus, Audurée, vous vouliez réagir. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend très souvent en France, on a le droit au blasphème. En fait, c'est même pas une question.
Ça n'est pas un délit. La loi de 1881, elle ne protège pas une race ou une religion en tant que telle. Elle protège les personnes qui sont attaquées et la cible de propos haineux à raison de leur origine ou de leur religion. On parle bien de personnes, de leur dignité, mais on ne parle pas de la religion en tant que telle. Le délit de blasphème n'existe pas en France. Et je dois dire que si l'injure raciste, homophobe est assez facile à caractériser, l'autre discours de haine qui, au regard de la loi de 1881, est communément appelée la provocation publique à la haine raciale ou à la haine homophobe, suppose là des débats et un travail d'interprétation assez rigoureux pour savoir quelle est l'exacte portée ou l'exacte valeur qu'on doit donner à des propos.
Alors, je renverrai vers les travaux hein, d'une ethnologue, Jeanne Vavret-Saada, qui s'est exprimée récemment et qui travaille sur depuis la fin des années 80, justement sur le retour de cette notion de blasphème dans l'espace public, mais qui a pris une autre tournure en fin des années 80. C'est évidemment la fatwa de l'ayatollah Khomeini sur Salman Rushdie et tous les diffuseurs des versets sataniques, le livre qu'il avait sorti à l'époque. Mais Jeanne Vavret-Saada travaillait aussi sur les contestations de la religieuse de Rivette à la fin des années 60. Ou dans les années 80, toujours La dernière tentation du Christ de Martin Scorsese, pour montrer comment, finalement, ce n'est plus la question vraiment du blasphème qui devient l'argument, mais plutôt celui de la sensibilité religieuse ou des sensibilités religieuses blessées, Basile Adair.
Oui, vous avez raison, parce que ça a été une tentative qui a d'ailleurs connu un premier succès devant les juridictions de fond, où, prenant acte de ce que, sur le terrain de la loi pénale, de la loi de 80 et de la provocation à la haine à raison de la religion, il n'y avait pas d'espace, sauf à démontrer que, implicitement et nécessairement, on visait les personnes et pas simplement les dogmes. Mais le plus souvent, ce ne sont que les dogmes et les représentations religieuses qui sont mises en cause, notamment à l'occasion de ces films ou de la reproduction de la scène, vous savez, pour cette affiche publicitaire. Ils se sont dit, on va aller devant le juge civil Et là, c'est plus facile parce que on n'est plus encadré strictement par une définition d'un délit, mais on peut invoquer une faute. Et ils se sont mis sous l'article 9 du Code civil qui, vous savez, protège la vie privée, mais la vie privée et la vie intime, l'affliction religieuse. On y a mis beaucoup de choses dans cette notion qui, par ailleurs, n'est pas définie par la loi. Et ils sont allés en disant, nous avons une atteinte grave à nos sentiments intimes religieux que vous ne pouvez pas ignorer et que ce faisant, vous commettez une faute et donc on vous demande réparation uniquement sur le terrain civil. Et la Cour de cassation, dans les deux affaires, a été amenée à dire non, en fait, vous faites un détournement de ce qui n'est pas permis au regard de la loi française depuis 1881, comme vous le rappeliez, c'est la possibilité de se plaindre d'un blasphème. Or, en fait, c'est ce dont vous vous plaignez. Donc, on a requalifié en disant, et vous ne pouvez pas contourner la loi qui encadre et définit les abus de la liberté d'expression pour aller rechercher la faute civile.
Un mot, Charles Gérard, sur ce glissement hein, qui est pointé du doigt par l'ethnologue Jeanne Favret-Saada, ce glissement finalement du blasphème tel que il était reproché à certaines époques en France à toute œuvre qui s'attaquait ou qui s'en prenait ou en tout cas qui représentait la religion à cette question des sensibilités religieuses blessées. Comment est-ce que vous voyez ce glissement?
C'est pas simplement un glissement, c'est une déformation qui est liée en partie à des malentendus et en partie à des stratégies conscientes qui consistent, pour certains acteurs, à faire jouer le droit laïque contre lui-même, c'est-à-dire à essayer d'effacer la frontière conceptuelle entre blasphème et discours de haine. Alors il y a des malentendus qui sont absolument sincères et qu'il faut prendre au sérieux, puisque quelqu'un disait tout à l'heure, il est évident que le jugement de 2007 à bien des égards est exemplaire sur la technique d'interprétation. Il faut être conscient dans la société française qu'il n'est pas du tout perçu comme cela partout. Quand je fais cours parfois sur cette question, mes étudiants, c'est pas du tout propre aux seuls étudiants musulmans, montrent une incompréhension assez forte de cette distinction. La difficulté vient pas de la porosité entre les deux catégories. C'est autre chose, c'est une chose de dire « je n'aime pas votre religion » ou comme cette lycéenne qui a été harcelée et persécutée sur les réseaux sociaux depuis janvier, « votre religion c'est de la merde », ça c'est une chose. Et dire de l'autre côté « tous vos co-religionnaires, tous les musulmans, tous les juifs ou tous les noirs ou autre chose ont telle et telle caractéristique négative ou sont à chasser », c'est entièrement autre chose. Ce qui fait qu'il y a des malentendus sincères sur un acte d'expression précis, sur un dessin, sur un geste, sur un discours. Il y a des désaccords d'interprétation, parce que l'interprétation est compliquée, parce qu'elle dépend notamment du contexte. Donc par exemple, l'un des dessins incriminés en 2007, celui qui montrait un homme barbu avec un turban portant la profession de foi de l'islam, le turban était en forme de bombe, on voit bien comment un dessin comme ça, dans un journal satirique critiquant les intégristes, peut renvoyer à la vision de l'islam portée par les intégristes, ou par les terroristes, parce que c'était aussi une partie de la cible dans les caricatures réunies sur cette double page. Mais on voit très bien comment le même dessin pourrait constituer sur un site xénophobe appelant à chasser tous les musulmans dehors, pourrait prendre un autre sens et pourrait participer à un autre type d'acte d'expression. Donc dès qu'on perd le contexte ou dès qu'on n'a pas en vue les critères d'interprétation, dès qu'ils ne sont pas communs, il y a des désaccords sincères et très problématiques qui se créent. Et c'est ceux-là qui sont exploités par ceux qui très intentionnellement jouent sur les deux tableaux. C'était le cas du prédicateur qui a contribué à orchestrer la campagne contre Samuel Paty. D'un côté, il a mis en avant une humiliation supposée, une haine supposée des élèves musulmans, mais dans plusieurs des messages qui ont circulé, y compris dans les messages aussi du parent d'élève qui y a contribué, il est question d'atteinte au prophète, vous aimez votre prophète, il faut réagir. Il y a des cas très importants de malentendus sincères et il y a des cas de détournement
stratégique. De réels détournements stratégiques. Merci Charles Gérard. Malheureusement, on est au bout de cette émission. C'est toujours pareil quand le sujet est passionnant. Et on est très très frustré de devoir mettre fin à ce type d'émission. Mais je suis sûr qu'on aura d'autres occasions d'en discuter. Merci aussi à vous, Basile Adair, Haute Durée, d'avoir participé ce soir à ce temps du débat du samedi qui était réalisé par Vanessa Nadjar. À la prise de son, c'était Manon Houssin. Merci à Seam Boutata pour sa collaboration. Lundi, le temps du débat d'Emmanuel Laurentin posera la question épidémie, terrorisme, nos libertés sont-elles en danger? Vous voyez, on a de la suite dans les idées. Mais avant cela, prochain rendez-vous avec un magazine d'actualité. C'est évidemment demain à 11h, l'esprit public d'Émilie Aubry qui parlera terrorisme, comment combattre une idéologie et élections américaines, deuxième vague, un monde en suspens. Il me reste à vous souhaiter un excellent week-end à toutes et à tous. À l'écoute de France Culture. Tout de suite, on retrouve Hervé Gardette, c'est politique.